Salut les voisins. L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question. Nos enfants sont-ils surprotégés ? Peur de l'accident, peur des maladies, des mauvaises fréquentations, peur des conduites à risque, l'alcool, la drogue. C'est un phénomène apparu aux États-Unis, vous savez, dans cette culture du risque zéro. Et du coup, c'est tout un arsenal de la surveillance des enfants et de la limitation des activités qui gagnent les parents, les crèches, les écoles ou encore les clubs de sport. Alors comment trouver le juste équilibre entre protection et exploration pour que les enfants grandissent ? Nous allons en discuter avec plusieurs psychologues. Bonjour Bruno Hombeck.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous, vous deviez être en studio, malheureusement il y a eu un petit problème sur la ligne TGV Bruxelles-Paris et vous avez publié « Et si nous laissions nos enfants respirer ?» Également avec nous en studio, Béatrice Copper-Royer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié de nombreux livres sur les enfants, notamment « Enfants anxieux, enfants peureux ». Nous serons aussi en ligne à Dakar avec Ibrahima Giroud qui est spécialiste du développement de la petite enfance au Sénégal et également psychologue. Et au téléphone en direct dès maintenant, Laurence Rameau, puéricultrice et formatrice petite enfance. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous si vous aussi, vous vous posez parfois cette question. Nos enfants sont-ils surprotégés et du coup, peut-être pas très débrouillards, moins autonomes? Mais tout de suite, écoutez le point de vue de Léonore Skenazy, blogueuse, journaliste new-yorkaise, mère de deux garçons. Elle a fondé le mouvement Free Range Kids, ce qui veut dire littéralement « enfants élevés en plein air ». Elle répond aux questions de Charlie Dupio.
The whole idea of free-range chickens, which everybody is familiar with,
toute l'idée des poulets élevés en plein air, c'est qu'on a compris qu'il était insensé de les garder enfermés. Ils ne sont pas nés pour vivre ça. C'est très injuste, mais quand on pense aux enfants aujourd'hui, eux aussi, on les enferme sous surveillance permanente. Un jour, j'ai laissé mon fils de 9 ans prendre le métro tout seul, à New York, où nous vivons. Et j'ai écrit un éditorial sur le sujet. Je suis éditorialiste pour des journaux. Et on m'a surnommée la pire mère d'Amérique. Parce que quel genre de mère laisse son fils de 9 ans descendre en enfer ? C'est comme ça que certains le formulaient. Mais en fait, ce que j'étais et ce que je suis toujours, c'est une mère qui fait confiance à ses fils. Et ça, ça a disparu dans notre génération. Car nous en sommes venus à croire que dès qu'un enfant n'est pas sous surveillance, il est en danger. Et c'est un changement culturel important.
Et où en est-on sur cette question, en particulier aux États-Unis ?
Aux États-Unis, nous avons vraiment l'idée qu'il faut avoir peur tout le temps. Vous le voyez, si vous allumez la télévision ou en allant sur Internet. La semaine dernière, j'ai été interviewée ici, aux États-Unis, par une journaliste qui m'a demandé « Lénore, comment peux-tu laisser tes enfants aller dehors alors que tu connais l'histoire d'Adam Walsh ?» Adam Walsh, c'est un horrible fait divers. C'est un enfant qui a été enlevé par un inconnu en Floride, et je déteste le dire, il a été assassiné. Mais le fait est que cette histoire remonte à, oh mon Dieu, je dirais 1981, et cette histoire est encore très présente dans nos pensées. Ce sont ces histoires dont on se souvient. On ne se souvient pas des millions et des millions et des millions d'enfants qui ont vécu leur vie tranquillement, sont rentrés à l'école à pied, ont pris un goûter chez eux avant de sortir jouer dehors. Alors, faites attention à ce que ça n'arrive pas jusqu'à chez vous. Mais aux États-Unis, dès que quelqu'un voit un enfant seul, rentrer de l'école à pied ou aller sur un terrain de jeu, il peut appeler la police, parce qu'il pense que le parent est négligent. Et souvent, la police est d'accord, et le parent peut être arrêté.
Et votre objectif, vous l'écrivez sur votre blog, c'est de combattre la croyance selon laquelle nos enfants sont en danger en permanence. Alors le danger, c'est, vous l'écrivez, des tordus, les notes, la frustration, l'échec, les insectes, les germes, et puis les périls d'un raisin qui ne serait pas bio. Ça fait beaucoup de dangers pour certains parents.
Aux États-Unis, nous sommes très forts pour inventer des dangers partout. Tiens, l'autre jour, j'ai lu quelque part, si votre enfant sort en plein hiver, assurez-vous, avant qu'il ne sorte, qu'il pourra trouver un sol qui n'est pas gelé ni glissant. Nous sommes sur cette trajectoire étrange qui nous conduit à croire que notre enfant peut mourir d'une seconde à l'autre dès lors qu'il n'est pas aux côtés de ses parents, en train de manger un goûter sain. Une des raisons qui explique tout cela, c'est que nous vivons dans un pays où on fait des procès tout le temps. Et une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a des accessoires maintenant qui se vendent aux États-Unis en grand nombre. Par exemple, ces petites chaussettes avec des fils que vous pouvez faire enfiler à votre bébé. Et pendant le temps qu'il sera à la crèche, ces chaussettes diront à votre iPhone la température de votre bébé, ses mouvements, son rythme cardiaque et son niveau d'oxygène dans le sang. Ce qui est étrange, car personne ne connaît jamais son niveau d'oxygène dans le sang. C'est une information qu'on nous donne seulement quand on va à l'hôpital. Et puis, parce que c'est toute une culture, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais quand votre enfant devient plus grand, il existe des appareils qui vous permettent de pister votre enfant dès qu'il quitte la maison. Et vous pouvez voir où il va sur une carte de géolocalisation. Je pense qu'on est allé vraiment très loin ici, bien plus loin qu'en France. Et la réalité, c'est que ces enfants ne savent plus sortir et imaginer des jeux. Ils ne savent pas courir dans une forêt et construire un fort, une cabane, ou même aller sonner chez un ami pour lui proposer de jouer dehors. Toutes ces choses appartiennent au passé. Et pourtant, aux États-Unis, nous avons le taux de crime le plus bas que nous avons jamais connu depuis 1963. Ce qui veut dire que quiconque a grandi dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000 était moins en sécurité que nos enfants le sont aujourd'hui. Si nous ne pensons pas que nos parents étaient fous de nous laisser jouer dehors à l'âge de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, alors nos enfants aussi pourraient grandir avec cette même liberté.
En fait, vous voulez déculpabiliser les parents ?
Je leur dirais, souvenez-vous de votre propre enfance. Si vous adoriez sortir au grand air, aller chez vos amis, faire des soirées pyjama, souvenez-vous et offrez cela à vos enfants.
Béatrice Copper-Royer, je vous ai vue un peu atterrée.
Oui, non mais ça fait sourire, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que ça correspond quand même à un mouvement qui est peut-être beaucoup moins important en France, mais qui se profile quand même, parce que notamment l'idée que les enfants sont en sécurité uniquement quand ils sont avec leurs parents, est une idée qui fait son chemin et assez rapidement. On voit bien que, par exemple, le téléphone portable dont les parents... que les parents donnent à leurs enfants assez tôt, à la fin de l'école primaire, souvent, est quand même aussi là pour pouvoir les suivre et savoir un petit peu, heure par heure, où ils sont. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de dogme qui s'installe, surveillons-les, nous parents, un peu 24 heures sur 24.
Bruno Humbeck, vous exercez en Belgique, ça correspond à une certaine réalité aussi par rapport à ce que vous voyez ?
Oui, tout à fait, et je dirais même pas atténué hein, par rapport à au témoignage qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on appelle l'hyperparentalité, c'est pas une maladie. Hein. Je crois qu'il faut éviter que les personnes qui écoutent l'émission se culpabilisent d'avoir ces réflexes de tentative de contrôle. Il faut qu'ils puissent être plus lucides et mieux le comprendre, mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est même pas un défaut, c'est juste une tendance actuelle. Parce que pour la plupart d'entre nous, on a désiré nos enfants, on les a même programmés dans leur venue. On a décidé d'avoir des enfants, les enfants ne sont plus des événements ou des accidents, ce sont des programmations, et donc on se sent responsable de tout ce qui va leur arriver. Alors évidemment qu'il faut détendre le système éducatif et éviter les trois symptômes majeurs. Celui dont on parle ici, qui est essentiellement ce qu'on appelle le parent hélicoptère, hein, qui veut tout contrôler en permanence, tout le temps, autour de son enfant, mais aussi ce qu'on appelle le parent drone, celui qui veut toujours le meilleur pour son enfant. Il ne faut pas qu'il soit triste, il ne faut pas qu'il soit en colère, parce qu'on ne l'a pas mis au monde pour ça, on ne l'a pas mis au monde pour qu'il ait peur. Et donc, on va essayer d'éviter toutes les émotions négatives autour de l'enfant. Et le troisième symptôme, c'est le parent drone, c'est celui qui veut absolument préparer l'avenir de son enfant pour que l'avenir soit en toutes circonstances radieux. On repère ses parents dans les devoirs scolaires où ils deviennent fous, ou le long des terrains de football où ils deviennent parfois tout aussi fous, c'est-à-dire par rapport aux deux ascenseurs sociaux.
Oui, mais tout ça, c'est le résultat finalement des mises en garde des médecins et des psys, non ? Vous êtes un peu coupable de tout
on
ça,
est
non ?
Un peu coupable.
Des traumatismes éventuels que pour...
C'est aussi et grâce aussi, parce que c'est pas que négatif, à l'évolution des connaissances aussi. Hein. Par exemple, dans les années 70, les enfants, on les attachait pas en voiture. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'arrière. Bon, c'est avec l'évolution des connaissances que évidemment on est plus prudent et qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont absolument indispensables pour assurer la sécurité des enfants. Et on ne va pas s'en plaindre non plus.
Bruno Humbeck ?
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il faut bien toujours penser que tout ça part de quelque chose de positif. Par exemple, l'orthorexie alimentaire, qui est un défaut d'hyperparent, mais qui, en même temps, à l'origine, est un souci pour l'alimentation de l'enfant.
C'est-à-dire le souci d'avoir une alimentation plus équilibrée. Hein, c'est ça.
Même pas équilibrée, archi saine. saine.
C'est ça, mais qui peut atteindre des paroxysmes et une obsession surtout. Hein.
Laurence... Et là, effectivement, le marché alimentaire, par exemple, qui va culpabiliser les parents, qui font de temps en temps, je veux dire, des petites failles par rapport à un régime trop strict, eh bien, ce marché-là est un marché qui induit des comportements excessifs. L'hyperparentalité, c'est quand ça fonctionne par excès, que ça crée de la souffrance, soit chez l'enfant, soit chez le parent, soit dans la relation. Oui. Mais a priori, c'est une parentalité très bienveillante et très soucieuse du développement de l'enfant.
Vous voulez dire donc qu'il y aurait tout un marketing aussi qui viserait à culpabiliser les parents s'ils n'ont pas le meilleur équipement possible pour la sécurité de leurs enfants, d'une certaine manière.
Pas seulement la sécurité, mais aussi le bien-être. Hein. Il y avait par exemple un outil qui s'est vendu énormément alors qu'il n'a aucun effet. On appelait ça l'effet Mozart, c'est-à-dire qu'on considérait, parce qu'une recherche complètement fantaisiste prétendait que les enfants qui avaient entendu Mozart avant de naître était plus intelligent que les autres. C'était une fantaisie complète, qui a été d'ailleurs exprimée comme étant une fantaisie, mais on a vendu des tas d'écouteurs pour mettre sur le ventre des mamans pour faire écouter Mozart au bébé avant même qu'il vienne sur le sol.
Laurence Rameau, vous êtes aussi au téléphone avec nous. Alors vous formez du personnel de crèche. Qu'est-ce que vous constatez dans ces modes de garde collective? Est-ce que c'est une question qui se discute ou pas du tout?
Alors, c'est une question qui est très, très prégnante dans les modes d'accueil aussi, parce que ce que a dit la dame aux États-Unis, c'est exactement ce que nous vivons dans la petite enfance et dans les crèches.
Ah bon ? On n'enfile quand même pas des petites chaussettes avec des fils pour transmettre des informations médicales sur l'iPhone des mamans.
Non, heureusement pas encore. Et j'espère que ça n'adviendra pas. Mais surtout, on essaye d'éliminer tous les dangers qui sont liés à ce que les enfants peuvent rencontrer, ne serait-ce que sur l'extérieur pour jouer dehors. Dans les crèches actuelles, vous ne voyez plus de pelouses, de terre, d'arbres, de feuilles, etc. Mais vous voyez des sols souples partout, des sols en plastique souples pour éviter qu'ils ne se fassent mal, pour éviter qu'ils ne se salissent. À l'entrée des crèches, vous voyez des surchaussures que les parents doivent enfiler parce que, évidemment, le lieu de la crèche doit rester hyper hygiénique, hyper propre. Et on a cette tendance à faire attention à ce que l'enfant ne tombe pas, ne se fasse pas mal, prenne le toboggan dans le bon sens parce que s'il le prend dans le mauvais sens, il risque de rencontrer un autre et ça risque de faire boum. Et avec cette angoisse un petit peu des professionnels qui doivent rendre un enfant sans bosse, sans griffure, sans salissure, etc.
En quoi ça modifie du coup l'organisation des activités pour les enfants et la façon dont ils eux-mêmes se projettent dans le monde?
Eh bien, ça modifie parce qu'en fait, ils sont plutôt dans l'empêchement de jouer. Quand un enfant, on évite qu'il se salisse, on évite qu'il touche à de la terre dehors, à des feuilles, qui saute dans les flaques d'eau. Finalement, il y a plein d'apprentissages qu'il ne fait plus. Il est empêché de jouer, empêché d'explorer, que quand il saute dans une flaque, il y a de l'eau qui jaillit de tous les sens. Et qu'est-ce que ça fait? Action, réaction. Et ce sont les explorations que les bébés font à cet âge-là et qui sont totalement nécessaire de les faire de manière concrète avant de comprendre des choses du domaine de la physique abstraite.
Mais alors, il faut quand même rappeler que même en France, les enfants sont loin d'être à l'abri des accidents domestiques, par exemple, et que ça reste la principale cause de décès. Hein. Il ne faut pas non plus faire de l'angélisme. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui, Bruno Hombeck et Laurence Rameau et Béatrice Copperway, qu'on ne sait plus très bien où est la juste mesure entre le risque réel, par exemple, d'un accident domestique, et puis tout simplement des risques mineurs.
Oui, alors ça dépend aussi du niveau d'anxiété des parents, évidemment. Hein. Il y a des parents qui vont être plus anxieux que d'autres, et qui du coup vont pas trouver cette juste mesure, qui est ce juste équilibre, qui est évidemment intéressant.
Ouais. Laurence Rameau, en crèche?
Oui, pas seulement en crèche, mais j'ai vu ce matin un enfant monter sur un tout petit tabouret style marchepied. Ouais. Donc il se met debout sur le marchepied. C'est un petit risque, mais on voit tout de suite que, là c'était une maman, eh bien, la première chose c'est tout de suite de lui demander de descendre, parce que c'est trop risqué de monter sur un tout petit tabouret. Mais les enfants, c'était un enfant de 3 ans, les enfants de 3 ans prennent ce genre de petit risque-là, ce qui leur permet d'évaluer leur corps dans l'espace, de savoir comment se débrouiller. Et si on n'a plus ces expériences-là, l'expérience de l'escalier, l'expérience de monter sur des petites hauteurs, on n'a plus non plus des connexions neuronales qui se font dans le cerveau. Donc il y a des manques.
Et en même temps, on valorise beaucoup depuis quelques années l'autonomie des enfants. Ça peut sembler un peu paradoxal. On en discute avec vous juste après Aurel San et Stromae. La pluie, oui, ça mouille.
Dans la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas. Oh, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau chez moi. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, Julien Clerc dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau.
C'est la pluie, en effet, Aurel San et Stromae chez 7 milliards de voisins. On se pose la question, nos enfants sont-ils surprotégés, en tout cas à la lumière de ce que vous nous décrivez, vous, psychologue Bruno Humbeck, Béatrice Copper-Royer ou Laurence Rameau qui formait du personnel, notamment de crèche. D'ailleurs, je vais vous redonner la parole parce que vous nous quittez après pour le flash. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec l'urbanisation, c'est avant tout la ville aussi qui apparaît comme dangereuse, non, pour les familles. Que constatez-vous, Laurence Rameau ?
Oui, même on a construit même un petit peu nos crèches comme ça, c'est-à-dire en les protégeant de la rue, la ville. Quand on voit des crèches qui ont des panneaux transparents où les enfants peuvent finalement voir les passants, ou les passants voir les enfants, et même interagir avec eux, on voit les professionnels qui ont tendance à faire des dessins sur les vitres pour pas qu'il y ait ces interactions-là. Comme si finalement les enfants devaient être mis dans des bulles à part. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que la ville, c'est la vie, c'est des gens qui passent, c'est des interactions possibles. Et si on a une petite mamie qui va faire son marché et puis qui dit coucou à un enfant à travers la vitre parce qu'elle le voit, ben ça peut être très sympathique.
Ah oui, ça semble...
Les gens ne sont pas forcément tous méchants.
C'est ça, oui, ça semble incroyable. Je vous lis le message posté sur Facebook de Ninelle qui est à Yaoundé au Cameroun, qui nous dit « Dans les vraies enfances, on se blessait et on continuait. C'est rempli de beaux souvenirs et avec moins de consultations chez le pédopsie. Maintenant, on entend des discours anxiogènes partout, surtout dans les magazines de psychologie. On y voit des chiffres qui donnent le tournis. La génération actuelle passe à côté de son enfance. Dommage pour eux. » Alors, la faute aussi aux médias ou pas, Laurence Rameau ?
Je ne sais pas si c'est la faute aux médias. Je crois qu'il y a une vraie tendance, je ne sais pas d'où elle vient, mais il y a une vraie tendance à cette, moi j'appelle ça l'hygiénisme sécuritaire. C'est-à-dire que voilà, on fait, peut-être le monsieur a dit avant, c'est-à-dire que comme on a choisi ses enfants, on veut absolument les protéger, décider tout pour eux, etc. Et c'est une tendance de fond.
Et qui a largement gagné vos métiers, hein, justement, professionnels de la petite enfance. Mais est-ce que ce n'est pas aussi de la communication ? C'est-à-dire, avant tout, pour pas forcément pour avoir un vrai résultat en termes de sécurité, mais pour rassurer, pour envoyer un message aux enfants.
Moi, je trouve que nous, les professionnels de la petite enfance, on a tort d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on reçoit des parents, il faut absolument qu'on leur explique qu'à cet âge-là, les enfants jouent, les enfants se salissent, les enfants se font mal, les enfants n'ont pas toujours la couche propre parce qu'ils sont en train de jouer et qu'ils ne veulent pas qu'on les change tout de suite maintenant. Et c'est pas pour ça qu'ils auront un érythème fessier. Et les enfants vont monter les toboggans à l'envers et faire tout un pas de choses à la crèche, et puis que s'il n'y a pas de surchaussures, c'est pas grave.
Merci Laurence Rameau d'avoir été en ligne avec nos puéricultrices qui forment du personnel de crèche et qui nous disaient à quel point tout le matériel ludique pour éveiller les enfants avait évolué avec cette préoccupation centrale, majeure, éviter tout risque, toute possibilité d'accident, même même mineure, bien évidemment. Vous pouvez nous appeler, les voisins, les voisines, si vous vous posez vous aussi ces questions-là, au risque peut-être de freiner la découverte, l'exploration de votre enfant dans la vie. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Alors, on a des messages sur Facebook qui nous arrivent du continent africain, où bien évidemment, il ne faut pas non plus négliger le risque réel qui concerne de très nombreux enfants, risque d'accidents domestiques, etc. Mais néanmoins, les messages sont édifiants. Martial est à Abidjan et nous dit: des enfants vont à l'école avec des panneaux stop qu'ils brandissent avant de traverser les différentes voies. Il me semble que ça a été vu aux États-Unis. Jules à Abidjan également nous dit: moi je laisse mon enfant jouer, je pense qu'il voit beaucoup de choses que l'adulte ne voit pas. Bon, ça c'est pas tout à fait sûr. En tout cas, les voitures voient mal les enfants.
Oui, hein. Ça c'est certain. C'est certain par exemple qu'on sait très bien que avant 9-10 ans, un enfant seul dans la rue n'est pas forcément en sécurité, puisqu'il a une capacité à évaluer la distance, la vitesse, etc. des voitures, qui n'est pas suffisamment bonne.
Donc danger réel dans les villes où il y a beaucoup de circulation. Jackie à Madagascar nous dit: moi j'interdis à mon fils de jouer aux jeux de fous comme le catch. Je lui interdis aussi, tout dépend quel âge ont les adversaires, hein. Si ils ont le même âge et la même corpulence, c'est peut-être pas si grave. Je lui interdis aussi d'accepter des cadeaux d'une personne qu'il connaît mal, mais je suis parallèlement un père qui écoute son enfant et le respecte. On voit bien tout de même l'inquiétude des parents de ne pas être à la hauteur. Ou Tiburce, qui est à Libreville, qui nous dit: cette psychose actuelle devient générale chez les parents au Gabon. Nous nous disons tout de même que nous ne serons pas toujours là pour eux.
Oui, mais ça, c'est malheureusement, c'est une évidence. Mais au moment où ils ne seront plus là, les parents, leurs enfants seront autonomes quand même, on espère.
Bruno Humbeck, est-ce qu'on va fabriquer des enfants peu débrouillards finalement?
Voilà, j'aime bien la distinction, en fait, d'ailleurs, entre débrouillard et autonome.
Oui.
Un enfant autonome, c'est un enfant qui est capable de faire appel aux autres quand il en a besoin. C'est pas un enfant débrouillard. Hein. Et souvent, la confusion crée beaucoup de tension, parce que un enfant autonome, c'est un enfant qui doit avoir confiance dans son environnement. Ouais. Si on lui explique que tout son environnement est susceptible de générer du danger, on va le rendre peu autonome. C'est vraiment le vrai souci qu'on a, non seulement avec les enfants, mais encore plus avec les adolescents. Hein, parce que l'adolescence, c'est un peu comme la levure, ça gonfle tout. Et donc les problèmes que vous aurez dans l'enfance vont devenir beaucoup plus aigus dans l'adolescence, où là, l'autonomie va devenir une forme de revendication. Et les parents, effectivement, très soucieux de préserver leur adolescent, ont inventé une culture qu'on appelle la « bedroom culture », c'est-à-dire que tout, tu l'as dans ta chambre. De quoi manger, de quoi dormir, de quoi travailler, de quoi jouer.
Pourquoi prendre des risques inconsidérés et sortir de sa chambre, donc, finalement?
Et en même temps, on va dire à l'adolescent: explore, sois autonome, vis des choses. Et l'adolescent, face à cette injonction paradoxale, il n'aura pas le choix, il va explorer tout en restant dans sa chambre, et bah, il va utiliser énormément de jeux vidéo, et là,
parents... Il va explorer sur Facebook.
Voilà, sur Facebook ou sur des jeux vidéo, hein, qui sont souvent des jeux d'exploration très intéressants par ailleurs, mais les parents, à leur anxieux, vont projeter leur anxiété sur les écrans, et vous verrez ces mêmes parents des conférences sur l'enfant face aux écrans, comment est-ce qu'on doit contrôler le rapport à l'écran, doit-on être présent aussi sur Facebook, et donc les trois mécanismes, parent hélicoptère, parent drone et parent curling, vont se remanifester un autre objet.
Donc reste dans ton lit et prends un livre. C'est ça, finalement. Vous nous appelez...
On va aussi à l'extérieur, parce que l'extérieur n'est pas qu'une source de danger.
Mais bien sûr, on va donner la parole à des auditeurs. 33 1 84 22 71 71. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour. Et bonjour à vos invités.
Soyez le bienvenu, Amadou. Vous êtes à Conakry. Vous avez 22 ans, vous avez un petit frère. Ou plusieurs, probablement.
Oui, bien sûr, j'ai des petits frères. Et particulièrement, j'ai un petit frère qui a l'âge de 8 ans. Donc, c'est un problème qui le concerne, parce qu'il part là à l'école. Mais ce que, d'une manière différente, quand tu pars à l'école, voilà, le papa ou la maman lui dit tout le temps de consulter une personne sur la route pour le faire traverser, parce que c'est très dangereux quand même qu'il prenne seul la route, aller jusqu'à l'école sans qu'il ne soit accompagné par quelqu'un. Donc quand il arrive sur la route, il trouve un adulte qui lui demande de l'aide. Voilà, monsieur, bonjour, il faudrait me faire traverser s'il vous plaît, parce que la route, elle est dangereuse. Et voilà, j'ai fait encore réviser les enfants, parce que ces enfants-là, je leur demande tout le temps comment est-ce que vous partez à l'école, comment est-ce que vous jouez. Mm-hmm. Et donc ces enfants-là, certains d'entre eux me disent, voilà, ils partent à l'école sans l'accompagnement de leurs parents. Mais certains d'entre eux, quand même, leurs parents leur disent la même chose que mon petit frère. Voilà, quand vous trouvez des jeunes, mm-hmm. il faut leur saluer très bien et leur demander leur aide parce que vous ne devez pas traverser seul la route.
Oui.
Donc, c'est une manière de leur dire qu'ils doivent être autonomes, comme votre invité l'a dit, qu'ils
c'est
doivent
ça.
Être autonomes, qu'ils apprennent à... Et même
à demander de l'aide autrement et ailleurs que auprès de leur famille, c'est ça.
Voilà, exactement, c'est ça, exactement, c'est ça. Et voilà, par contre, il y a d'autres personnes qui essaient de traverser la route sans l'appui de ces jeunes adultes.
Oui.
Et c'est ce qui est très dangereux.
Bien sûr.
Malgré cette aide qu'il demande.
Et vos parents n'ont pas peur que votre petit frère fasse de mauvaises rencontres? L'ont-ils averti du risque éventuel, certes tout à fait mineur, mais de tomber sur une personne mal intentionnée, par exemple?
Oui, ils peuvent avoir ces mauvaises idées dans la tête, bien sûr, pour ne pas qu'ils se rencontrent avec des mauvaises personnes, c'est vrai. Mais puisque vous savez, quand même, c'est une chose très, très négligente parce que moi, je suis à Conakry et voilà, mes parents sont à Kindia. Quand ils se mettent à laisser cet enfant traverser sur une route ou bien aller seul à l'école, parfois quand je les trouve à Kindia, je leur demande cela, ils me disent, ah, c'est par faute de temps. Ils n'ont pas à les accompagner tout le temps, à l'accompagner tout le temps à l'école, j'allais dire. Et donc, c'est quelque chose quand même, c'est risqué parce qu'il peut se rencontrer avec quelqu'un qui ne connaît pas et voilà, à supposer que c'est une personne qui peut lui voler, l'amener quelque part. Donc, c'est très dangereux quand même.
Oui, mais votre petit frère aussi a appris, j'imagine, à se méfier hein, et à être vigilant.
Voilà, il est vigilant parce que généralement, quand il part à l'école, il se rencontre avec des grands amis. Voilà,
c'est ça,
les
d'accord.
Amis d'ailleurs, ou bien les amis de ses frères. Voilà.
Eh bien, merci Amadou de nous avoir appelé pour nous livrer votre témoignage. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Quelles sont vos initiatives dans les familles pour faire confiance à votre enfant, accepter aussi le risque éventuel pour qu'il devienne plus autonome. Nous posons aussi la question à Ibrahima Giroud, qui est docteur en psychologie cognitive et spécialiste du développement de la petite enfance à Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez publié un livre sur le développement de l'intelligence, développer l'intelligence de votre bébé. Où en sont les parents dans une grande ville comme Dakar avec la sécurité de leurs enfants? Parce que bien évidemment, il y a tous les cas de figure. C'est une ville où on continue de voir des enfants talibés qui mendient, qui ont peu pour se nourrir, qui ne sont pas scolarisés, qui sont avec des vêtements déchirés. Et évidemment, ceux-là, ils ne risquent pas d'être surprotégés. Il faut bien dire aussi la réalité d'une ville comme Dakar. Hein.
C'est très juste. Je profite pour saluer tous vos auditeurs ainsi que vos invités. La situation de la protection des enfants au Sénégal, je vais parler de cas des familles, est assez variable parce que vous avez, en fonction de la situation socio-professionnelle des familles, Vous avez une approche sur cette question qui peut varier. Le cas que vous avez souligné avec les enfants talibés, c'est typiquement le cas de familles dans l'extrême pauvreté et dans l'extrême vulnérabilité, où souvent les familles n'hésitent pas à envoyer les enfants mendier, même s'ils les confient à un marabout plus ou moins véreux qui à la base avait donné des gages qu'ils donneraient une formation aux enfants. Mais on sait que derrière, il y avait des considérations financières parce que souvent, ces marabouts-là promettent en retour qu'ils donneraient quelque chose aux parents tous les mois. Donc, en réalité, c'est du trafic qu'il y a derrière.
Mmh. Et par ailleurs, vous observez une inquiétude grandissante de certains parents dans la classe moyenne aisée, très urbanisée?
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans la classe moyenne, on a une situation tout à fait différente avec des parents qui ont radicalement remis en cause le modèle traditionnel pour en garder certainement ce qui est bon. Mais le paradoxe vient du fait que dans le nouveau modèle qu'ils veulent mettre en place, en fait, il n'y a pas assez de contenu puisqu'il n'y a pas beaucoup de familles qui vont partager ces nouvelles valeurs. Et donc, les familles qui ont envie de mettre en place une nouvelle approche de l'éducation vont rapidement se retrouver minoritaires. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait qu'elles vont surprotéger leur enfant.
À quoi vous pensez, par exemple, dans...
Vos invités l'ont dit, c'est qu'on va tout mettre à la maison. Tout sera disponible dans la maison avec les tablettes qui seront suffisantes, avec la télé qui sera là. Et tout sera dans la maison pour que l'enfant ne soit pas exposé au dehors.
Il y a une étude anglaise, j'aurais bien aimé voir ce que vous en pensez à l'échelle de Dakar, qui a démontré que le périmètre parcouru par les enfants à un âge donné n'a cessé de se réduire de génération en génération. En Afrique, on le constate, on a construit beaucoup d'écoles, donc les enfants des villages qui vont à l'école tout seuls ou parcourent plusieurs kilomètres, eh ben, ils sont moins nombreux. D'ailleurs, Dieu merci, l'école est plus à portée des familles. Mais est-ce que ça se vérifie totalement à Dakar et dans ses banlieues?
C'est assez juste, même si aujourd'hui, si vous prenez le cas de Dakar, bon, vous avez quand même beaucoup d'élèves qui sont issus des familles aisées qui viennent en voiture. Donc à peu près à ce niveau-là, peu importe d'une certaine façon la distance, parce que vous avez des familles qui font vraiment énormément de kilomètres pour aller trouver les meilleures écoles qui sont au centre-ville. Mais le problème, c'est vraiment le fait que, vous savez, avec une famille nucléaire, comme c'est en train d'être le cas, dans la société sénégalaise, notamment à Dakar, où les grands-parents ont de moins en moins leur place dans le couple et dans la famille, vous ne pouvez pas recréer une société sans la société. Donc ça veut dire que tout ce qui est socialisation de l'enfant risque d'avoir énormément de difficultés, parce que l'enfant est privé de tout ce qu'il y a dehors, en bien comme en mal, mais c'est tout ça qui fait l'éducation de l'enfant également. Donc, on voudrait qu'il ait que du bien à la maison, sauf que dans le bien, il y a aussi les perfections de la société et on le prive de cela.
Béatrice Copper-Royer, là, c'est vrai que ce qui est décrit, finalement, on le retrouve dans des grandes villes,
oui,
en Europe, où l'enfant est en contact avec l'école et avec sa famille nucléaire.
Absolument. Et c'est vrai, sur le rétrécissement du champ de déplacement, c'est un exemple très privé, mais il se trouve que mes petits-enfants passent une partie de leurs vacances au même endroit où moi, j'ai passé mes vacances enfant. Et je vois à quel point... Ils ne s'éloignent pas du jardin, qui est assez grand, mais
donc,
quand même.
Donc à la campagne,
à la campagne, zone rurale. À la campagne. Alors que moi, enfant, par exemple, on pouvait partir presque une journée entière sans que nos parents sachent vraiment où on était, quoi. Et il ne viendrait même plus à l'esprit maintenant.
Et là, vous parlez de quel âge, quand vous aviez quel âge?
Huit ans, 9 ans.
C'est ça, vraiment jeune.
Jeune.
Et aujourd'hui, ça semble inconcevable. Pour les parents, pour vos enfants qui élèvent vos petits-enfants.
Absolument inconcevable.
Il y a beaucoup de témoignages comme ça, d'ailleurs, qu'on retrouve. Hein. Bruno Hembeck, vous constatez la même chose?
Ce qu'il y a vraiment de très intéressant dans ce qui a été dit, notamment par ce professeur à Dakar, c'est que les familles ont changé, mais il y a des cultures qui, effectivement, l'idée de famille nucléaire de plus en plus présente, un modèle nucléaire qui s'impose partout, notamment dans les zones urbaines, c'est ce que moi j'ai appelé des familles troncs, c'est-à-dire où tout repose sur le tronc. Hein. Pour bien comprendre comment se réalise une configuration familiale, c'est comme un arbre. Si vous faites peser sur le tronc, c'est-à-dire sur le couple parental, toute la pression porte sur le tronc. En Afrique subsaharienne, moi je vais régulièrement au Bénin par exemple, dans les villages notamment, pas dans les villes, vous avez des marmailles d'enfants, des groupes d'enfants qui exercent un contrôle les uns sur les autres. On n'est pas dans des enfants abandonnés, on est dans des enfants qui, et c'est un proverbe sénégalais, hein, il faut tout un village pour élever un enfant, qui est élevé par tout un village et dans lequel ils s'entraident.
Avec notamment le rôle des grands frères d'ailleurs.
Bien sûr, ou du groupe. Quand je vais au Maghreb et que je vois des petits enfants dévaler les collines en groupe pour aller à l'école, sur des longues distances, avec la confiance que les parents ont, non pas dans l'enfant individuel, mais dans le groupe d'enfants et dans l'effet que ce groupe va produire. Ça, ce sont les familles qu'on appelle les familles houppiers, c'est-à-dire les branchages, etc., ouvertes sur leur communauté. Et vous avez aussi les familles qu'on appelle les familles souches, qui, elles, sont celles qui tiennent essentiellement par les racines, c'est-à-dire les grands-parents, les ancêtres, tout ce qui fait l'enracinement. Et effectivement, dans nos familles nucléaires, le rôle des grands-parents a tendance à être complètement sous-estimé, dévalorisé, alors que par exemple pour l'accompagnement scolaire, pour les devoirs scolaires, nos recherches montrent qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les parents, parce qu'ils s'énervent moins, parce qu'ils ont plus de temps et qu'ils mettent moins de pression sur l'acte éducatif.
Alors vous restez avec nous dans quelques instants, on va essayer de donner tout de même des conseils un peu pratiques et précis aux parents, à partir de quel âge on peut laisser son enfant faire quoi. Et vous nous appelez bien évidemment si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. So nobody shed a tear. Shake your body, mommy, move that derriere. I swear the shit get more popping every year. Little late, just be happy that I'm here. We gon' party so nobody.
body, shed a tear. Shake your body, mommy, move that derriere. I swear the shit get more poppin' every year.
Like what the fuck I got to lie for? House parties, bad shouties, dodging 503. Young brothers about to get rich of that line. Don't give a fuck if I was late. I'm right on time and doing fine. Oh, now I can make this backwards disappear. OG aroma, make a little bit strong for real. You see my gang keep elevating every year. And on the make the spot, jump as if it wasn't
clear. It ain't ever gon' stop. Like a candy 6-4. Realest on the block, round the clock. We gon' always be dope. Hakaluki, got some truth that got. Women flocking where they move, say that. Hippaholic, let it loose, baby. Just a product of my silhouette life from nigga June to May.
Little late, just be happy that I'm here. We gon' party so nobody shed a tear. Shake your body, mommy, move that derriere. I swear the shit get more poppin' every year. Little late, be happy that I'm here. We gon' party so nobody shed a tear. Shake your body, mommy, move that derriere. I swear the shit get more poppin' every year. Every 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 shit get more poppin' every year.
Now looky here, I got lunch money. Sitting clean, we ain't fucking with them dust bunnies. Pennies in my hush puppies, nigga, what's bummy? I can't pay with the damn thing. Came here for the beer, stay here for the champagne. It's some whiskey, it's for Jay Strange and the dead homies. Getting hotter every year, I say it every year. Niggas dropping like flies, I'm just happy that I'm here.
C'est Warm Brew, I swear, chez 7 milliards de voisins. L'heure de donner des conseils aux parents, maintenant qu'on a expliqué parfois à quelles extrémités arrivent les parents, non pas par leur faute, hein, mais aussi parce que la société a évolué, vous nous le disiez tous à ce micro. Alors comment trouver l'équilibre entre la surprotection, l'inquiétude permanente, et puis en même temps, évidemment, ne pas laisser des enfants entièrement livrés à eux-mêmes. Ibrahima Giroud, ou à Dakar, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui aux familles compte tenu de l'évolution de la situation des familles à Dakar?
Je crois qu'un des premiers conseils, ce serait que les parents acceptent leur propre imperfection. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment fondamental. Ce n'est pas seulement vrai au Sénégal. Ça m'a l'air vrai un peu partout parce que j'ai travaillé en France quelques années avant de rentrer au Sénégal. J'ai le sentiment que les parents vont surinvestir le domaine de la protection de l'enfant parce qu'ils ont envie de rattraper quelques morceaux plus ou moins imparfaits de leur propre vécu. Alors qu'en réalité, accepter notre propre imperfection rend les choses beaucoup plus simples et rend la relation à l'enfant beaucoup plus naturelle et basée sur la réalité et non pas sur des fantasmes ou des protections, des fantasmes ou des projections. Donc ça, c'est vraiment un point de départ qui me semble absolument important d'accepter que ça ne sera jamais parfait et c'est ça qui est parfait. Vous voyez. Ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième chose, c'est maintenant aussi, c'est dire, si je ne suis pas là, parce qu'il y a plein d'enfants qui ont perdu leurs parents à la naissance, ça ne les empêche pas de grandir. Évidemment, si les enfants ont la chance d'avoir leurs parents jusqu'à l'âge le plus avancé, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Mais la réalité est qu'une personne, à partir du moment où elle vient sur Terre, elle cherche les moyens de s'adapter et de faire sa place, avec ou sans ses parents.
Merci à vous. Bruno Humbeck, que dites-vous aux enfants aujourd'hui, vous qui avez publié, si on laissait nos enfants respirer?
Alors, d'abord, tous les parents, évidemment, laissez l'enfant respirer. Et le conseil d'Ibrahim Giroud, j'y souscris pleinement. Hein. Accepter l'imperfection. À ce niveau-là, les Simpsons sont un meilleur modèle que les Ingalls de la petite maison de la prairie, parce que Homer Simpson assume pleinement ses imperfections. Et ça nous permet de nous identifier à des modèles relativement imparfaits. Et qu'il assume, mais aussi laisser respirer et se laisser respirer. Ce qui pose problème, ce sont les exigences que les parents se donnent à eux-mêmes, avec ces trois petites voix qu'on entend tous dans notre tête régulièrement. Sois parfait, fais un effort et sois fort. Ça veut dire, n'aie pas d'émotion, ne craque pas, fais un effort, sois disponible en permanence pour ses enfants. La phrase la pire, c'est « j'ai tout fait pour toi ». Ouais. J'ai tout fait parce que j'ai tout fait, c'est aussi étouffer et c'est ne plus respirer. Donc c'est ça qu'il faut aussi.
À ne jamais prononcer. À ne jamais prononcer à ses enfants.
C'est à ça, ne jamais j'ai prononcer. Tout fait. Et les enfants ont absolument besoin de parents épanouis. Donc un parent qui cherche son propre épanouissement va beaucoup plus aider son enfant qu'un parent qui renoncerait à cet épanouissement.
D'un point de vue plus pratique, excusez-moi, mais depuis le début de cette émission. Bon, alors on a eu l'exemple de cet auditeur qui nous disait, moi, mon petit frère se dirige tout seul dans Conakry à 8 ans, va à l'école tout seul malgré le flot de voitures et on lui a appris à demander à un adulte de l'aider à traverser. Mais vous, à partir de quel moment vous estimez qu'un enfant peut faire quoi tout seul ?
Il peut faire tout ce qu'il est en mesure de faire sans se susciter à lui-même de la peur et augmenter cette peur en suscitant de l'anxiété chez les parents. Donc je pense par exemple que faire traverser la route à son enfant, qu'on ait fait au moins une fois la route avec lui pour lui expliquer les choses, puis le faire en le regardant faire traverser ses routes et puis l'amener à traverser. C'est progressif, ça, c'est pas du tout rien, c'est pas je te contrôle ou je te contrôle plus, je contrôle tout ce que tu fais ou je ne contrôle plus rien. L'hyperparentalité, son penchant négatif, c'est l'hypoparentalité, c'est-à-dire un retrait massif, parce que finalement, à force de s'être épuisé dans le contrôle, de s'être épuisé dans le souci de perfection, et on l'a parfois dans des familles très défavorisées, où on a un retrait massif alors de la parentalité, parce qu'on est complètement découragé. Oui. Tout ça doit se mettre en place de manière très progressive, et accepter qu'une société du risque, ce n'est pas une société qui met tout le monde en danger.
Bien sûr.
Vivre, c'est prendre un risque, c'est se prendre le risque de mourir, c'est un pacte qu'on a pris avec la vie spontanément.
Et pour vous, Béatrice Copper-Royer ?
Moi, je dis souvent aux
parents,
je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit, mais je dis souvent aux parents de développer chez leurs enfants, depuis qu'ils sont très petits, la capacité d'être seuls un moment. Et ça, je crois que c'est quelque chose, par exemple, les parents travaillent beaucoup, donc sont beaucoup dans la culpabilité de ne pas s'occuper assez de leurs enfants. Donc, par exemple, le week-end, ils ne les lâchent pas. Et je dis souvent, et du coup, ils s'épuisent parce que c'est fatigant. Après une semaine de boulot, de ne pas lâcher ses enfants, s'en occuper non-stop. Et je leur dis souvent, mais accordez-vous à vous aussi un temps pour vous et développez même un enfant, par exemple, de 3 ans, il peut très très bien jouer 10 minutes, un quart d'heure tout seul, venir voir s'il est en sécurité, si ses parents ne sont pas trop loin, et puis repartir. Et là, je pense que c'est vraiment développer chez eux la capacité de s'autonomiser, et c'est quand même le but de l'éducation. Et là où je suis d'accord, c'est qu'il faut que ça soit progressif, qu'il y a des enfants qui vont être prêts plus tôt que d'autres à faire les choses seuls, il faut les accompagner, mais l'objectif étant qu'au bout du compte, ils volent de leurs propres ailes. We used to talk, now it's mumbles and alcohol. We used to laugh, now the tables have turned. We used to write, now we barely go out. We were so fly, we were hanging with now. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo. Like sirens, sirens, like deo, deo, deo.
scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo.
Préparez, Béatrice Cooper-Royer, un ouvrage sur les grands-parents. Le sujet a d'ailleurs été abordé dans cette façon, dans cet accompagnement un peu distancé parfois qu'ont les grands-parents pour faire grandir les enfants.
Ouais, le livre sort le 1er mars chez Albin Michel et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer que les grands-parents avaient toute leur place et tout leur intérêt dans notamment dans la transmission parce que les jeunes maintenant communiquent énormément entre eux et que les discours des adultes et notamment des grands-parents qui ont du recul et peut-être plus de temps aussi je pense que le dialogue avec eux c'est un espèce de contrepoids comme ça à un discours jeune très très normatif les grands-parents ont aussi justement cette distance, ils sont moins dans le souci éducatif et ils ont peut-être analysé leurs erreurs.
Ils ont parfois une forte pression sécuritaire de
alors
la part
ils ont
des
une
parents.
Très très forte pression sécuritaire des parents, ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs, des conflits parce que on leur laisse c'est une question de confiance. Quelqu'un a évoqué le mot de confiance et ça me paraît très très important. Il faut aussi que les parents fassent confiance et se disent que leurs enfants sont en sécurité avec d'autres personnes qu'eux. Et notamment, par exemple, avec leurs grands-parents. Et c'est vrai que quand ils les laissent des petits avec des listes absolument énormes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, à quelle heure, est-ce qu'il faut donner à manger, etc., parfois ça peut être un peu irritant.
Bruno Humbeck, on n'a pas parlé de la différence entre les filles et les garçons. Faut-il établir une différence en termes de risque, d'ailleurs ? Elle est bien réelle.
Mis à part le risque de prédation sexuelle, je dirais, il n'y a pas vraiment de différence. Les parents ont à peu près le même type d'attitude et doivent pour réaliser finalement une parentalité qui serait sereine, utiliser des ressources. C'est les grands-parents, on vient d'en parler, c'est aussi les frères et sœurs, c'est aussi les cousins, c'est aussi le groupe des pères, avoir une confiance dans tous ceux qui vont faciliter ce qu'on appelle la coéducation. Tous les gens qui sont sur votre plateau, qui sont dans nos formations, etc., moi je leur demande toujours, mais où sont vos enfants ? Ben, les enfants ne sont pas là, ils sont éduqués par d'autres qu'eux-mêmes, et toute la question c'est de savoir dans quelle mesure ils peuvent avoir confiance dans les personnes qui éduquent avec eux, parce que la coéducation est devenue quasiment une obligation pour chacun d'entre nous.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci Bruno Humbeck. Vous publiez « Si nous laissions nos enfants respirer » aux éditions Renaissance du Livre. Merci à vous, Ibrahima Giroud. Développer l'intelligence de votre bébé, c'est un guide pour interagir avec les bébés de 0 à 3 ans aux éditions Éduchance. Et merci à vous, Béatrice Cooper-Royer. On se reparlera pour le prochain livre qui sort en mars.
Merci.
Sur les grands-parents. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins. Nous serons de retour en direct pour une nouvelle émission. À lundi, les voisins.